Bienvenue sur le cours de F6KGL, et ce soir nous voyons la deuxième partie du chapitre 4, qui est en fait la dernière séance de réglementation pure. Ensuite on va avoir deux séances de techniques de base, qui sont c'est des questions posées à l'examen de réglementation. Donc, tout ça, comme toujours, qui me gêne. Voilà. Alors, premier paragraphe, ça parle des modalités de l'examen, parce que ça semble quand même un peu bizarre, mais dans les questions d'examen, il y a des questions sur l'examen. Alors, des questions pas très compliquées, mais bon, voilà, elles peuvent être surprenantes quand on n'a pas trop regardé ce que c'était. Donc en fait, il faut Yvan qui pose la question, j'ai manqué les deux derniers cours, ça va poser des problèmes pour comprendre ce soir. Alors, en réglementation, ça ne pose aucun problème. Ça pose des problèmes quand on loupe des cours, c'est quand on est en technique. Parce que du coup, il y a des notions qu'on a peut-être vues les séances précédentes qui du coup ne sont pas vues. Je les rappelle, mais on rentre pas dans les détails. Donc, pour ce soir, là, modalité de l'examen, on se réfère à l'arrêté du 21 septembre 2000, qui est le texte de référence pour le programme de l'examen et les conditions de déroulement des examens et les attributions des indicatifs. Donc cet arrêté du 21 septembre 2000 nous dit que pour passer l'examen, il n'y a pas d'âge minimum, ni d'âge maximum d'ailleurs. Donc voilà. Auparavant, ça devait être 16 ans, je crois. Mais bon, de toute façon, comme pour la partie technique, il y a besoin d'un petit bagage quand même. À mon avis, il faut au moins collège pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'une formule mathématique, ne serait-ce que ça. Voilà. Mais en tout état de cause, il n'y a pas d'âge minimum. Et pour réussir l'examen, il faut avoir réussi les deux épreuves. Il y a donc l'épreuve de réglementation et l'épreuve de technique. Ce sont deux épreuves qui sont indépendantes et il faut réussir les deux. Il faut avoir la moyenne aux deux. Il y a des frais d'examen. Alors, la licence annuelle, enfin, tout au moins la taxe annuelle a été supprimée il y a 2019. Il n'y a que la taxe annuelle. En revanche, les frais d'examen de 30 euros, ceux-là, ils sont concernés. D'ailleurs, les 30 euros, ils datent d'un certain temps parce que ça n'a pas été réévalué depuis le passage à l'euro et de mémoire, ça n'avait pas été réévalué depuis 91. Donc voilà, ça commence à dater un petit peu et ces frais d'examen n'ont pas évolué depuis donc très longtemps. Si le candidat a une invalidité, alors une invalidité ça s'appelle une IPP, ceux qui sont handicapés savent de quoi on parle, ce sont les invalidités physiques permanentes. Et donc pour cela, on a une carte. On a une carte d'invalidité et sur la carte d'invalidité, il y a inscrit le taux du handicap. Et donc pour ceux qui ont un handicap supérieur ou égal à 70%, ceux-là ont une épreuve qui est adaptée parce que, exemple, un non-voyant, il y a quelqu'un qui va lui expliquer ce qu'il voit à l'écran, à moins que ce soit l'examinateur, je ne sais pas. Le temps est triplé. Alors, par rapport aux examens classiques où les gens qui ont un handicap ont juste ce qu'on appelle le tiers temps, donc il y a un tiers du temps en plus, ça c'est pas un tiers du temps en plus, c'est trois fois plus de temps. Donc pour la réglementation, c'est 45 minutes, et pour la technique, c'est 1h30. Donc voilà. En revanche, une IPP supérieure à 70%, supérieure ou égale à 70%, il faut être très handicapé pour l'avoir. Et voilà, donc, il y a des maladies, par exemple, si vous avez fait un AVC, eh bien, ça ne vous donne pas automatiquement une invalidité avec un IPP supérieur ou égal à 70%. Voilà. Donc, c'est des handicaps lourds. Hein. 70%, c'est vraiment... c'est donc être non-voyant, et puis sûrement d'autres pathologies, mais voilà, c'est quand même très lourd. Oui, il y a Milos qui dit que la NFR de Saint-Dié lui a dit que là, il y a des gens qui avaient repris une licence, parce qu'on va voir que on peut la suspendre, la licence, tout au moins l'indicatif, on peut le suspendre, on pouvait le suspendre, maintenant il y a plus grand intérêt pour éviter de payer les 45 € annuels. Et donc, visiblement, il y en a il doit y avoir entre 100 et 200 personnes qui ont repris, demandé à reprendre leur indicatif, puisque maintenant la taxe annuelle a été supprimée. On va revenir un peu plus tard. Et pour terminer sur l'invalidité à 70%, l'épreuve peut se dérouler au domicile, ce qui est quand même quelque chose qui mérite d'être noté. Les questions à l'examen, ça va porter sur le taux d'invalidité. Quel est le taux d'invalidité? Et quelle est la durée d'examen pour ces gens qui ont un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%. En cas d'échec à l'une des deux épreuves, le candidat doit attendre 2 mois avant de repasser l'examen. Ça fait partie des questions d'examen, pas très récurrentes, mais j'ai déjà vu. Et le candidat conserve pendant 1 an le bénéfice de l'épreuve dans laquelle il a obtenu la moyenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une des deux épreuves, elle est conservée pendant 1 an, et si vous ne réussissez pas l'épreuve que vous avez ratée dans l'année, il faut tout recommencer à zéro. Alors, les seuls qui ne sont pas dans ce cas-là, ce sont ceux qui avaient, puisque maintenant on ne peut plus le passer, le certificat de l'ex-classe 3, donc tous ceux qui ont des indicatifs F0, donc c'est un certificat d'opérateur. Si pour autant vous n'avez pas demandé à votre indicatif, gardez votre certificat d'opérateur. Et donc ce certificat d'opérateur permet d'avoir des indicatifs F0. Et donc ceux-là, ces opérateurs-là, n'ont à passer que l'épreuve de réglementation. Quelle que soit la date à laquelle ils ont passé l'épreuve de... ils n'ont à passer que l'épreuve de technique, quelle que soit la date à laquelle ils ont passé l'épreuve de réglementation. Et enfin, il y avait... c'est une petite règle de droit que j'ai rappelée. En France, les certificats sont des diplômes valables à vie, sinon ça ne porte pas le nom de diplôme, et ça s'appelle une autorisation ou un permis. Voilà, donc c'est juste, c'est pour vous rappeler quand même un peu de réglementation. Voilà ce que l'on peut dire sur cette page. Oui, c'est la page 26 du cours. Hein. Ceux qui suivent le cours sur le document PDF, c'est page 26. Donc, après avoir réussi l'examen, il faut attendre de recevoir la notification d'indicatif d'appel. C'est pas parce que vous avez votre certificat d'opérateur que vous pouvez émettre. pouvoir émettre, il faut avoir un indicatif. Et donc l'indicatif, c'est la notification de l'indicatif d'appel. Alors en théorie, vous voyez votre indicatif avant de recevoir cette indicatif, avant de recevoir cette notification, puisque la NFR met à jour son site dès qu'elle imprime la notification, et vous la recevez un jour ou deux après, selon le délai postal. Et en théorie, il faut attendre cette notification, et la seule visualisation de votre indicatif sur le site ANFR n'est pas suffisante. Voilà. Mais bon, après, il y en a beaucoup qui n'ont pas attendu le bout de papier. Et donc, c'est l'ANFR qui vous envoie, à la suite de votre réussite à l'examen, votre certificat d'opérateur, qui est valable à vie. Donc, un conseil, mettez-le bien dans un dossier, faites-en des copies, on ne sait jamais. Et donc, avec ce certificat d'opérateur, vous avez aussi une demande d'indicatif d'appel. Et donc, vous le renvoyez, et la notification est renvoyée entre 15 jours et une semaine et 15 jours après la réception du dossier par la NFR. Auparavant, c'était plus compliqué. Avant 2014, c'était pas la NFR qui délivrait les certificats d'opérateur, c'était le ministre chargé des communications électroniques. Concrètement, c'était à Bercy. Il faut voir que le Villejuif et Bercy, c'est pas juste la porte à côté. Et donc, il y avait des parapheurs qui se baladaient entre Villejuif et Bercy. Et il est arrivé que des parapheurs étaient perdus. Donc, ça mettait d'autant plus de temps à recevoir le certificat d'opérateur ou la notification, puisque c'était aussi la notification qui était signé par le ministre chargé des communications électroniques. Alors évidemment, il y avait des délégations de signature, mais voilà, il suffisait de tomber sur une période de vacances ou une période un peu chargée à Bercy, bah, votre dossier était passé en dessous les autres. Voilà. Maintenant, ça s'est nettement amélioré, et donc on arrive entre 15 jours et 3 semaines, le délai entre la réussite de l'examen et la réception, la notification d'indicatif d'appel. Voilà. Alors, pas de questions là-dessus. En revanche, la question sur le document qui autorise l'émission, ça, il y a question. Il y en a eu, tout au moins, pas récemment, mais il y en a eu. Et puis enfin, l'ANFR peut organiser des examens décentralisés s'il y a plus de 10 candidats et si le site d'accueil est à plus de 100 km d'un centre d'examen. Il y en a eu quelques-uns de ces examens décentralisés, notamment lors des salons radioamateurs. Bon, maintenant, comme les salons radioamateurs, il n'y en a plus trop, les examens décentralisés, du coup, il n'y en a plus non plus. Juste un petit commentaire, le texte du 21 septembre 2000 parle toujours de certificat d'opérateur et de notification de l'indicatif d'appel délivré par le ministre chargé des communications électroniques. Donc ce texte n'est pas à jour, et il n'est pas à jour quand même depuis 2014, depuis décembre 2014. Donc ça va faire 6 ans qu'on attend que le texte soit mis à jour, donc cet arrêté soit mis à jour, et qu'il prenne en compte enfin ce qui se passe réellement, puisque depuis 2014, c'est l'ANFR qui a, dans ses missions maintenant, le fait de délivrer les certificats d'opérateur et les notifications d'indicatif d'appel, et aussi d'ailleurs de les retirer. On va en parler juste après. Alors, c'est le fameux texte là dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été communiqué aux associations il y a 15 jours, 3 semaines, presque un mois maintenant même, Donc en fait, c'est un vieux texte qui avait déjà été présenté en 2018 et qui est présenté à nouveau, enfin, tout au moins soumis à commentaires. Et donc dans ce texte, on voit notamment que dans l'article 2, que le moins un point pour une bonne réponse, enfin le un, que maintenant c'est un point pour une bonne réponse et que le moins un point pour une mauvaise réponse a été supprimé. Donc concrètement, ça veut, enfin, serait supprimé lorsque le texte sera publié. Pour le moment, c'est toujours pas fait. Et enfin, dans l'article, alors c'est tout à la fin, le dernier article, qui dit que le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après sa publication au journal officiel. Ça veut dire que lorsque le texte, l'arrêté modificatif sera publié, l'ANFR a 3 mois pour... Finalement, mettre à jour son logiciel pour que le calcul des points se fasse maintenant d'une autre manière. Donc jusqu'à présent, la note elle est donnée sur 60. Hein, vous avez une note sur 60 et il faut obtenir la moyenne, donc 30 sur 60, pour réussir une épreuve. À partir du moment où ce texte sera mis en vigueur, donc 3 mois jour pour jour après sa publication, bien, il suffira, puisque ça rapporte un point pour une bonne réponse, on demandera juste la moyenne de 10 sur 20, c'est pareil, hein, 30 sur 60 ou 10 sur 20, c'est pareil, à la différence, c'est qu'il n'y a plus le point négatif pour une mauvaise réponse. Et donc, que ce soit pour une absence de réponse ou une mauvaise réponse, c'est 0 point. Et évidemment, tant que ce texte n'est pas publié au journal officiel, il n'est pas applicable. Quand va-t-il être publié? Je ne sais pas. S'il y a des gens qui savent, qui en savent plus, ben qu'ils le fassent connaître, parce que là, je pense qu'en plus, avec des périodes un peu compliquées comme on vit en ce moment, ça risque de durer un petit peu. Voilà. Fin de la parenthèse. Évidemment, pas de questions à l'examen là-dessus. Formation des indicatifs. Alors, les indicatifs... donc déjà, l'indicatif, il est unique. C'est-à-dire que F6, GPX, vous allez en avoir un seul dans le monde. C'est comme un numéro de téléphone. C'est pareil. Vous pouvez en avoir qu'un seul. Ou une adresse mail. Il n'y en a qu'un seul pour une personne. Et donc, ces indicatifs, ils sont déterminés. Il y a une disposition du RR qui détermine comment ils sont constitués. Et donc, c'est la disposition S1968. Donc, la S19, c'est celle qui va donner tout, enfin, qui va parler de tous les, comment identifier les stations. Voilà. Donc, les stations radio-amateurs, enfin, le S19, c'est toutes les identifications des stations. Voilà. Et le -68, ce sont que les stations d'amateurs. Donc, pour vous dire que il y a avant un certain nombre de typologies, etc. Donc, les indicatifs radioamateurs, il y a toujours un préfixe. Ce préfixe, c'est la localisation, il est constitué de 2 lettres. Alors, plus exactement, de 2 caractères, alors, il peut être constitué soit d'une lettre, c'est le cas de la France, ou de 2 caractères, et ces 2 caractères, c'est une lettre et un chiffre, ou un chiffre et une lettre, ou 2 lettres. Ça peut pas être 2 chiffres. Ça, c'est certain. Et les chiffres, donc les lettres, c'est les 26 lettres de l'alphabet romain, donc les caractères cyrilliques, il n'y en a pas. Ou les caractères un peu spéciaux du style S7 allemand, etc. Pas possible. Et ou le WL catalan, pas possible aussi. Et donc, dans le préfixe, on peut mettre tous les chiffres, sauf 0 et 1. pour tout au moins, en fait, c'est pour éviter de les confondre avec des O et des I. Voilà, c'est tout. Mais sinon, on a dans le préfixe, on peut avoir mixé tout ça. Alors, je vous donne des exemples. I pour l'Italie. Donc, alors, pourquoi ? Alors, il y a des pays qui ont obtenu l'autorisation, point barre, le fait d'avoir un indicatif à une seule lettre, parce qu'en fait, c'est l'ensemble des possibilités. Donc, pour l'Italie, ils ont droit à IA, à IZ, et y compris I9. Ouais. Donc, de IA à I9. Et donc, on sait que c'est l'Italie. La France, on a droit, enfin, ça commence de FA, et ça finit à F9. Donc, on a droit à tout, et y compris le fait de n'avoir que la lettre F. En revanche, il y a des... Alors, donc ça, ce sont en fait les pays constitutifs de l'UIT. Alors l'UIT a été créée il y a très longtemps, en 1925, dans ces eaux-là. Et donc à ce moment-là, il y avait relativement peu de pays. Il devait y avoir 5 pays. Et donc il y a 5 pays qui ont la possibilité d'avoir des indicatifs avec une seule lettre. Tous les autres pays ont droit à des indicatifs avec 2 caractères. Donc, par exemple, Allemagne, DL. Par exemple, Malte, 9H. Par exemple, Andorre, C3. Etc., etc., etc. Ce qu'il y a à connaître pour l'examen, ce sont des préfixes, mais pas tous, heureusement, pas tous les préfixes. Ce ne sont que ceux des pays de la CEPT. Mais ça en fait quand même pas mal, ça en fait un certain nombre, parce qu'en plus, dans des pays, par exemple la France, eh bien, on a des dépendances, des territoires d'outre-mer, qui ont donc des indicatifs particuliers. Et il n'y a pas que la France, du coup, il y a aussi l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, qui a quand même quelques petites dépendances un peu partout. On a le Portugal aussi, etc., etc. Donc on va voir tous ces cas particuliers un peu plus tard. Après ce préfixe, et ça, ce préfixe, il est valable pour les stations radioamateurs, mais aussi pour toutes les autres stations radio. Exemple, un bateau, il va utiliser, un bateau italien, son indicatif va commencer par un I. Les avions, alors vous me direz, un avion, ça n'a rien à voir avec l'unité, et ben c'est la même codification. Ce qu'il y a marqué sur la queue des avions, c'est leur indicatif, c'est leur immatriculation, qui est aussi leur indicatif radio. Et donc, vous avez, si vous voyez un avion qui l'immatriculation commence par un I ou DL, ben DL, vous savez que c'est un avion allemand. Voilà. À la suite de ce préfixe, et donc c'est un préfixe de localisation qui permet de déterminer où est précisément la station, il y a un chiffre, systématiquement un chiffre. Alors le chiffre, il peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il y a des pays qui ont décidé que ce chiffre, ça va définir la région. Typiquement Espagne, ou Norvège, États-Unis. Voilà. Et puis dans d'autres pays, ce chiffre, ça va déterminer la classe de l'opérateur. Ça, c'est en France. Selon votre chiffre, on va savoir si vous avez droit à telle bande ou telle autre bande. Bon, maintenant, il y a moins de problèmes, puisque il n'y a que deux classes d'opérateurs. Il y a les AREC, donc la classe unique. Et puis, ce qui reste de l'ancienne réglementation, les F0. Voilà, c'est tout. Mais par le passé, il y en a eu un peu plus. Et puis enfin, on a des suffixes qui ne sont que des lettres. Et là, c'est à chaque administration à définir les critères. Alors, ce ne sont que des lettres de l'alphabet romain, donc les 26 lettres de l'alphabet romain, y compris le I et le O. Et donc, c'est 1 à 4 caractères, 4 caractères maximum, sauf pour les indicatifs spéciaux, qu'on va voir après. Les indicatifs spéciaux temporaires. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, donc pour concrètement, donc ça c'est la règle internationale, 8T, que je vous ai indiqué là. Et puis, bah, évidemment, la France est obligée de suivre cette règle. Et donc, la règle ANFR, elle est là. Et donc, elle est décrite dans l'arrêté du 21 septembre 2000. Et donc, le préfixe est constitué de une ou deux lettres, selon la localisation. Parce que je vous ai dit, il y a un préfixe de localisation. Ça, alors, je rappelle quand même que la France a des territoires d'outre-mer un peu partout dans le monde, et évidemment, chaque territoire d'outre-mer va avoir son propre préfixe, y compris la Corse, puisqu'elle est distante de la France continentale. Alors, je crois qu'il y a une distance, de mémoire, c'est 20 km d'eau internationale. Donc, voilà. Et donc, automatiquement, il y a un indicatif. Un préfixe spécial, il faut le différencier. Hein. Vous allez en Italie, vous allez avoir, donc, pour l'Italie centrale, enfin continentale, on va dire, et vous allez avoir un préfixe pour la Sardaigne, un préfixe pour la Sicile. Voilà. En revanche, les îles grecques, en fait, elles sont très proches l'une de l'autre, et donc il n'y a pas d'eau internationale qui sépare. Et donc, du coup, ben, elles sont toutes dans le même. Il n'y a pas de préfixe particulier pour ces îles. En revanche, par exemple, le Danemark qui possède le Groenland, eh bien, il y a un préfixe pour le Groenland. De même, ils ont des îles dans le nord, au Spitsberg, là. Eh bien, c'est encore un préfixe spécial. Voilà, donc faut bien avoir ça en tête, si bien que des 48 pays de la CEPT, ben, on arrive à presque 60 préfixes à connaître pour passer l'examen. Le préfixe, c'est constitué de une ou deux lettres qu'on va voir. Le suffixe, donc, qui est propre à chaque radioamateur. Là, le chiffre indique la classe d'opérateur, et derrière, on a deux ou trois lettres qui sont propres à chaque station ou à chaque radioamateur. Alors, le texte prévoit que lorsque la série des F4 UZZ sera attribuée, on passera à F4 AAAA. Je pense qu'il y a encore un peu de temps, et que d'ici là, la règle va peut-être changer. Parce qu'il y a quand même d'autres chiffres qui sont encore disponibles et qui pourraient être utilisés. Voilà, sans être obligé de passer par des indicatifs à rallonge. Alors, on commence par la formation des indicatifs français et par le préfixe. Le préfixe pour la France continentale, c'est la lettre F. Alors, je vous ai indiqué en plus ici la région de l'UIT. Vous vous rappelez, quand on avait fait les fréquences, on avait vu ce découpage du globe avec nos trois zones. Donc l'Europe, Europe-Afrique, c'est là, région 1. La région 2, c'est les Amériques, on va dire, ainsi que le Pacifique Sud, non, le Pacifique Nord. Et la région 3, c'est, on va dire, l'Asie, pour simplifier, ainsi que le Pacifique Sud. Voilà. Donc, alors, il y a des questions, en fait, à l'examen sur savoir dans quelle zone de l'UIT se trouve tel territoire d'outre-mer. Donc voilà, faut avoir une idée. Là, je vous les ai rappelés pour tous les territoires. Alors, sachant qu'il y a des trucs, faut savoir où c'est. On va tous les voir un par un. Donc, en France, c'est le F. Et quand on est en Corse ou dans un département ou un territoire d'outre-mer, il y a deux lettres systématiquement. Donc, alors, juste petit rappel de géopolitique, je dirais, c'est que la France est quand même la deuxième puissance maritime mondiale après les États-Unis, à cause des nombreux territoires d'outre-mer et de leur zone économique exclusive. Donc la zone économique exclusive, c'est la ZEE, qui est donc de 200 000 à partir des côtes. C'est pas, en fait, la zone économique exclusive, c'est là où on peut notamment pêcher, explorer des gisements de pétrole, etc., etc. On ne confond pas ça avec les eaux internationales, qui sont beaucoup plus limitées, puisque c'est à 12 000 nautiques des côtes. Hein. Mais donc la France, c'est la deuxième puissance maritime mondiale en termes de superficie, à cause de toutes ces petites dépendances, de toutes ces petites îles qu'on a à droite à gauche. Voilà, donc, ça c'est un petit rappel de géopolitique. Et maintenant, on va faire le tour de toutes ces dépendances qui nous font devenir la deuxième puissance maritime mondiale. Donc, je vous ai mis... premièrement, il y a la Corse et l'outre-mer. La Corse, c'est le seul département, parce que là, c'est un département, qui a un indicatif spécial, c'est TK. Ne me demandez pas pourquoi TK, je ne sais pas. En tout cas, c'est TK, et donc ça commence pas par un F. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Tous les autres, tout ce qui est en outre-mer, donc département ou territoire d'outre-mer, ça va commencer par un F, et puis après une lettre. Alors, F, donc la Guadeloupe, c'est G. G comme Guadeloupe, ça va. Martinique, c'est FM. M comme Martinique, c'est bien. Ça va aussi. Ça se complique un peu avec la Guyane, parce qu'évidemment, vous voyez, il y a deux G, et donc il y a une concurrence. Et donc, ce qui a été retenu pour la Guyane, c'est pas le G, parce que d'ailleurs, en deuxième lettre, il y a le U, hein, comme en Guadeloupe. Guyane et Guadeloupe, ça commence par les deux mêmes lettres. Et donc, on a gardé que le Y pour la Guadeloupe. Ces trois départements et régions d'outre-mer sont en région 2. Hein, je rappelle, Martinique et Guadeloupe, là, c'est dans les petites îles là. Et la Guyane, ça a une frontière avec le Brésil. Voilà. Ensuite, la Réunion FR. Voilà. La Réunion est en région 1. La Réunion, c'est au large ici de Madagascar. Alors, c'est limite région 2, je suis région 3, pardon, je suis d'accord, mais c'est quand même encore la région 1. Voilà. Donc, ça, c'est Réunion F. Alors là, celui-là aussi, il est un peu particulier. Saint-Martin, qui est donc une des îles administrée entre guillemets depuis la Guadeloupe. Saint-Martin, qui est d'ailleurs partagé avec les Pays-Bas, hein, puisqu'il y a une partie hollandaise et une partie française. Et pour la partie française, donc Saint-Martin, c'est FS, S comme Saint-Martin. On a aussi Saint-Barthélemy, mais pas de chance, c'est pas Saint-Barthélemy. FH, alors là ça se complique. FH, c'est Mayotte, parce qu'évidemment le M il était déjà pris par la Martinique. Le Y était déjà pris par la Guyane, donc après il n'y a plus grand chose. Et donc là, FH, je ne sais pas pourquoi, mais moi en mnémotechnique, il faut savoir que les habitants de Mayotte s'appellent les Mahorais, avec un H, Et donc, c'est le moyen mnémotechnique que j'ai trouvé pour se rappeler de l'indicatif de ma lettre. Alors, faut être un peu... s'il y a de la culture, mais bon. Alors, les indicatifs français sont fabriqués par ordre alphabétique. Français. Mais ailleurs, ça peut être n'importe quoi. Aux États-Unis, c'est vous choisissez dans la liste. Si l'indicatif n'est pas pris et que ça correspond à vos initiales, vous avez le droit de le prendre. Voilà. Maintenant, et en France, donc, c'est de manière, c'est ordre alphabétique en fonction de l'ordre dans lequel vous avez passé l'examen. Et typiquement, en ce moment, on est dans les IR quelque chose. Pour ceux qui la passent en ce moment. Donc, FH, Mayotte. FW, Wallis et Futuna. Ça, c'est facile. W comme Wallis. Alors, Saint-Barthélemy, FJ. Alors là, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça. Et moi, j'ai pensé à l'île de Johnny. Voilà, FJ comme Johnny. Bon, c'est encore une fois, il fallait savoir. Et puis les fans, ils sont contents de savoir que... je suis pas certain que ce soit pour ça que ça a été choisi. Parce que c'est quand même assez ancien, et Johnny, ça se trouve, il n'était pas encore... elle n'avait pas encore sa maison sur cette île. FK, alors ça c'est un jeu de mots. La nouvelle K, les demi, donc c'est le K. Encore un Saint quelque chose, et donc là on a pris le P de Pierre, donc Saint-Pierre, donc c'est FP. On a alors les terres australes et antarctiques françaises. Alors là, ce sont tous les petits cailloux qui sont dans les terres australes, donc plutôt côté pôle sud, et Antarctique aussi, donc c'est plutôt pôle sud. Donc faut savoir un peu où c'est. Crozet, c'est finalement dans le prolongement de la presqu'île du Cap de Bonne-Espérance, voilà, dans ce coin-là, Crozet. Kerguelen, c'est en zone 3, donc c'est au large de l'Australie, entre l'Australie et l'Antarctique. Saint-Paul et Amsterdam, c'est pareil, c'est dans le même coin. Les îles Éparses, ce sont toutes les petites îles que l'on a, soit dans le canal du Mozambique, donc entre Madagascar, l'Afrique, ou un peu au-dessus. Donc il y en a quand même quelques-unes. Alors il n'y a personne dessus, enfin tout au moins s'il y a une personne, c'est juste les gendarmes qui surveillent qu'il n'y ait pas de braconniers pour qu'ils viennent chercher des tortues ou je ne sais pas quoi. Donc on a en tout, on a 5 atolls ou îles, ou je ne sais pas trop ce que c'est, qui sont dans l'océan Indien. Et donc ces possessions sont Europa, Bassas de India, Juan de Nova, Glorieuse et Tromelin. Voilà. Donc ce sont des îlots. Alors le nom officiel c'est îles éparses. Voilà. Et comme ça veut bien dire elles sont un peu partout. Et elles sont en région 1 parce qu'elles sont grosso modo. Alors il faut savoir qu'elles sont administrées à partir de la Réunion. Et que voilà, quand il y a des bateaux qui vont relever les gardiens de ces îles, et ils partent de la Réunion. Donc ce sont tous ces territoires-là, ce sont les terres australes et antarctiques françaises, donc dès qu'il y a un indicatif dans ces zones-là, l'indicatif c'est FT. FO, c'est donc la Polynésie française, parce que c'est dans l'Océanie, voilà. Avec un cas particulier, c'est l'îlot de Clipperton. Alors Clipperton, en fait, c'est presque au large du Mexique. C'est entre Mexique et Tahiti, donc c'est entre les deux, là. Et plus proche du Mexique que de Tahiti, d'ailleurs. Et donc Clipperton est plutôt en région 2. Enfin, est en région 2. En revanche, les indicatifs, s'il y a, encore une fois, Clipperton, c'est une zone où il n'y a personne qui habite. Et je suppose qu'il doit y avoir l'armée qui vérifie qu'il n'y ait pas de braconnage et que tout se passe bien dans ce coin-là. sachant qu'il y a quand même pas mal de pays, Mexique et autres, qui aimeraient bien se récupérer ce bout de sable. Voilà. Et enfin, un indicatif un peu particulier pour les satellites français du service amateur. Parce qu'évidemment, un satellite, encore une fois, il a besoin d'un indicatif. Et donc, les indicatifs pour les satellites commencent tous par FX. Voilà. Alors, évidemment, la NFR, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu la déclaration PAR. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'est la NFR. Si ça devait être la semaine dernière. Et donc, on note bien l'adresse déclarée. Et donc, cette adresse déclarée, en fonction de l'adresse, c'est en fonction de cette adresse que va être donné votre indicatif. Voilà. Donc, encore une fois, là, les régions, il faut avoir au moins une idée d'où se trouvent tous ces territoires-là, parce qu'il y a quelques questions. Alors, généralement, ça tourne autour des départements, hein, pas des, on va pas vous demander, j'ai pas encore vu, qu'on vous demandait dans quelle région était Europa ou Bassas d'Aiglia, mais pourquoi pas, ça peut faire partie des questions d'examen, voilà. Et juste un petit rappel, avant 2015, donc avant que la NFR soit compétente pour délivrer les indicatifs d'appel, le ministre n'était pas compétent sur ces territoires, enfin sur certains territoires, et donc c'était les autorités locales qui étaient compétentes pour donner les indicatifs, pas pour les certificats d'opérateurs, mais pour donner les indicatifs. Et notamment, c'était le préfet à Mayotte, le haut commissaire de la République, donc le HCR en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et l'administrateur supérieur à Wallis et Futuna et dans les territoires austral et antarctique français. Voilà, donc, voilà, il y avait quelques questions dessus. Normalement, elles ont dû être retirées, parce que ça ne veut plus rien dire. Mais voilà, est-ce que c'est réellement fait? Je n'en suis pas certain à 100%. Donc, le suffixe, donc après avoir vu les préfixes, comment est constitué le préfixe, on va voir les suffixes. Évidemment, le suffixe, il est propre à chaque station, chaque radioamateur. Et donc, ça commence toujours par un. En France, ça commence toujours par un chiffre. Ce qui est valable pour la France n'est pas valable pour tout le monde. Hein. Donc, la France, ça commence par un chiffre. 0 pour les classes opérateurs de classe 3 qui ne sont plus attribuées. Les classes 1 et 4, les chiffres 1 et 4, ce sont les opérateurs de classe 2, qui est maintenant la classe unique, et à l'heure actuelle, donc c'est le chiffre 4, alors actuellement, là j'aurais dû mettre à jour, on est dans, alors l'année dernière, à la même époque, on était à IL, maintenant on est arrivé à IR, et je pense qu'on est à la fin des IR, et ils vont bientôt apparaître les premiers IS. Voilà, donc, voilà. Et lorsqu'un opérateur de l'ex-classe 3 réussit l'épreuve de technique, eh bien en fait, il ne change pas de suffixe, il change juste de chiffre. Donc F0 ABC devient F4 ABC, sauf cas assez exceptionnel si F4 ABC a déjà été attribué à un autre radioamateur. Et dans ce cas-là, bah, il se retrouve dans la série. Donc les IR ou IS à l'heure actuelle, comme s'il était un nouveau. Et puis aussi, on a les 5, les 6 et les 8 qui étaient des anciens opérateurs de classe 1 et des radioclubs, qui ne sont plus attribués sauf pour les radioclubs, donc les chiffres 5, 6 et 8 ne sont plus attribués sauf aux radioclubs, et donc c'était les anciens opérateurs de classe 1, donc ceux qui avaient la compétence Morse. Et enfin, il y a des vieux indicatifs qui souvent sont à des indicatifs à deux lettres en suffixe. Et donc là, on a des chiffres, les 2, 3, 7 et 9. Donc quand je vous disais tout à l'heure que les F4 avec 3 lettres derrière pourraient ne pas être utilisés, on pourrait utiliser les chiffres 2, 3, 7 ou 9, puisque voilà, ils ont été utilisés il y a très longtemps et les indicatifs n'avaient que deux lettres. Donc on pourrait très bien imaginer compléter ces séries-là en faisant des indicatifs à trois lettres et qui commencent donc par les chiffres 2, 3, 7 et 9, ou 9 plutôt. Et dans les DROM-TOM, donc c'est les départements, régions d'outre-mer et les collectivités territoriales d'outre-mer, donc tout ça pour dire c'est l'outre-mer. Et en Corse, eh bien, on a les chiffres 0 pour l'ex classe 3, 5 pour le chiffre 1 est attribué, mais on a encore des chiffres 0 et des chiffres 5 qui ont été attribués par le passé. Mais à l'heure actuelle, pour tous pour toute l'outre-mer, c'est le chiffre 1 qui est attribué et le chiffre 4 qui est attribué en France continentale. Alors, à la suite de ce chiffre, il y a 2, 3 ou 4, mais ça, je ne sais pas quand est-ce que ça sera fait, ou 4 lettres. Donc on a eu déjà des indicatifs très anciens où il n'y avait que 2 lettres au suffixe. Et donc ça donnait finalement des indicatifs avec 3 caractères. F, le chiffre, et 2 lettres. Et donc ces lettres, elles peuvent être tout ce qu'on veut entre AA et ZZ. Évidemment, ces indicatifs à 2 lettres sont aussi utilisés, toujours, pour l'outre-mer. Quand on est en outre-mer, on a un indicatif avec, puisqu'on a déjà 2 lettres, on l'a, pour définir la localisation, un chiffre pour définir la classe d'opérateur et 2 lettres pour définir l'opérateur. Voilà. Donc on a toujours 5 caractères pour donner l'indicatif radioamateur français. Donc pour les indicatifs français, on a la série des indicatifs à 3 lettres. En suffixe, donc on va de AAA à UZZ. Pourquoi on va à UZZ? C'est qu'il y a une partie des suffixes qui sont réservés pour d'autres choses. Alors, cas particulier, on n'en parle pas là-dedans, mais la lettre K, dès qu'il y a un suffixe qui commence par un K, c'est un radioclub. Voilà. Alors ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui, alors c'est assez courant dans les autres pays européens, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, ça a été c'est l'habitude, je dirais. Voilà. Donc en France, ce ne sont que des radioclubs. Donc en fait, c'est derrière, il y a une personne morale, soit association 1901 ou autre, et donc il y a un responsable de Radio Club, et on va voir un peu après comment. Non, on l'a déjà vu d'ailleurs, on l'a déjà vu la semaine dernière quand on a parlé justement des Radio Clubs et des responsables de Radio Club qui ne peuvent être que des radioamateurs de classe unique, donc qui ne peuvent pas être des ex-classe 3. Donc, K, c'est les radioclubs. Et puis, comme on s'arrête à U, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc, il y a les V. Alors, toute la série des V, c'est réservé aux radioamateurs de l'Union européenne qui sont installés pour plus de 3 mois en France. C'est-à-dire que si vous êtes si vous avez un indicatif comment dire, qui provient d'un autre pays de l'Union européenne, vous pouvez, et que vous êtes là pour plus de 3 mois, vous pouvez demander d'avoir un indicatif français. Sinon, si c'est moins de 3 mois, eh bien, vous reprenez la recommandation TR6101 et vous utilisez votre indicatif local avec F en préfixe et votre en suffixe slash P ou slash M, enfin, mobile ou portable, selon le cas. Enfin, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière pour cette recommandation, la TR6101. On va revenir dessus. Cas particulier des indicatifs déjà attribués à des Britanniques avant Brexit, ceux-là n'auront pas à changer d'indicatif. Voilà, ça avait été une des questions avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que ces gens-là vont être obligés de changer d'indicatif? La NFR a dit, ben non, ils ont été... ils ont été notifiés, on va pas les changer. Puis, je ne vois pas trop l'intérêt de les changer. En revanche, évidemment, s'il y a des nouveaux, ben ceux-là, comme ils sont hors Union européenne, eh bien, ils vont avoir une série W. Donc si vous avez quelqu'un qui vient par exemple des États-Unis ou de Russie, la Russie, encore la Fédération de Russie, fait partie de la CEPT, mais évidemment pas encore de l'Union européenne, et donc ces séries-là, enfin, ces radioamateurs-là, s'ils sont présents plus de 3 mois en France, peuvent demander un indicatif français du style F5, W ou F4, WAA ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est... Alors évidemment, il y a des questions à l'examen là-dessus, hein. On avait après W, donc il y a X, Y, Z. X et Y, auparavant dans les anciens textes, c'était affecté, alors X était affecté aux balises et Y aux stations répétitrices numériques. Voilà. Donc ça a été affecté pendant assez longtemps. Il y a eu quelques indicatifs qui sont sortis, notamment pour les balises. Et depuis 2008, je crois, eh bien, ces préfixes ne sont plus utilisés. Ils sont plus, tout au moins, ils sont plus notifiés. Et donc, il n'y en a plus de nouveaux. Maintenant, ce qui est uniquement notifié, ce sont les stations répétitrices, donc c'est les relais et les balises, avec un préfixe en Z, qui commence par un Z. Et le chiffre, bah, c'est un chiffre qui va entre 0 et 9. Voilà, donc ça... Et c'est valable aussi, ce Z, avec 3 caractères derrière, pour les relais en Outre-mer. Voilà. Donc ça, ce sont... Alors, il y a quelques questions, donc, sur les indicatifs avec un K, et sur les indicatifs avec un V ou un W. Voilà. Petit rappel, la loi de finances de 2019 a supprimé la taxe annuelle sur les radioamateurs. Donc ça s'est fait fin 2018 déjà. Donc c'était 46 euros. Ça a été supprimé. Je reviendrai pas sur ce truc-là, mais enfin bon. Et du coup, le duplicata qui était aussi payant, maintenant est gratuit. Voilà. Pas de questions à l'examen dessus, mais bon, c'est plus pour votre culture personnelle. En revanche, il y a des questions sur ce qui suit. Donc les indicatifs d'appel restent la propriété de l'État et ne sont pas transmissibles. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire sur votre testament que vous léguez votre indicatif à votre petit-fils préféré. C'est absolument interdit. Voilà. Voilà. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs de 2 lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. Donc voilà. Donc les indicatifs à trois lettres, ceux-là peuvent être éventuellement réattribués, quoique j'en ai jamais vu, mais bon, on pourrait le faire. En tout cas, et en tout cas, ceux à deux lettres ne sont pas réattribués. Alors, évidemment, il y a marqué « sauf nécessité constatée par l'administration ». Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra avoir... Enfin, ça serait bien qu'on puisse en arriver là, mais j'y crois pas trop. Et en tout cas, à ce jour, il n'y a aucun indicatif individuel qui n'a été réattribué. Et dans un très ancien texte, qui était abrogé depuis, il y avait seulement les indicatifs des radioamateurs morts pour la France qui ne pouvaient pas être réattribués. Là, maintenant, on est passé à tous les indicatifs avec suffixe à deux lettres. Les indicatifs spéciaux. Ça, justement, c'est spéciaux. Donc, quand on fait quand on veut commémorer un événement particulier, on peut demander un indicatif spécial temporaire. Donc, c'est quoi un indicatif spécial temporaire? Ben, c'est... en fait... on fait une demande de cet indicatif, c'est gratuit maintenant, évidemment, c'est gratuit, et on peut utiliser cet indicatif pour une période limitée à 15 jours non consécutifs pendant 6 mois. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous regardez, vous définissez au départ, dans votre dossier, les dates, vous avez 15 cases, concrètement, vous avez 15 cases, et vous dites quel jour vous voulez utiliser l'indicatif que vous demandez. Voilà. Et donc, bah, vous définissez ces 15 dates. Vous pouvez en mettre moins, évidemment, hein. C'est pareil. Et donc, ces 15 jours, ils peuvent être non consécutifs, donc vous pouvez mettre, par exemple, tous les week-ends, les samedis et les dimanches, ou une semaine, puis une autre semaine, enfin voilà, comme vous voulez, et en tout cas, ça ne doit pas dépasser 6 mois. Et donc, le préfixe, donc ces indicatifs spéciaux, justement, ils ont un indicatif spécial, vous aussi, pour les différencier des indicatifs individuels et ceux des radioclubs. Et donc, pour la France continentale, on va utiliser le préfixe TM, parce que la France a non seulement dans la liste des préfixes, elle a la série des F, toute la série des F, mais là aussi une partie de la série des T. Voilà. Donc en particulier de TM, TM, TK, TO, TX, ça fait partie des indicatifs attribués à la France. Et donc, quand on demande un indicatif pour la France continentale, on va demander du coup un indicatif qui commence par TM, suivi d'un chiffre, obligatoirement d'un chiffre, et d'un suffixe de 1 à 4 caractères avec une lettre à la fin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce que l'on veut, là, dans les 4 caractères, des chiffres ou des lettres, et absolument une lettre à la fin. Donc après, vous faites votre indicatif comme vous voulez. Typiquement, j'ai laissé tomber la souris, elle a pas aimé. Typiquement, je vous ai sorti une QSL d'une commémoration à l'occasion de la fermeture d'une base militaire. La base 277, je suppose. Donc il y a une QSL qui a été éditée, donc là, voilà, et donc l'indicatif demandé, ça a été TM277DA. Et ça correspond exactement à la codification, puisqu'on a TM, derrière on a le chiffre, enfin, le chiffre 2, puis après 4 caractères, dont le dernier est une lettre. Donc 77DA, ça marche. Et donc, voilà, on a obtenu cet indicatif. Quand on n'est pas en France continentale, mais quand on est en Corse, on va demander TK. Et alors là, remarquez bien que TK, c'est le seul cas où on va avoir à la fois des indicatifs spéciaux et des indicatifs individuels. Partout ailleurs, on différencie les deux et on a des préfixes différents. Il n'y a que pour la Corse où on a à la fois un indicatif individuel et donc il y a des risques de confusion, c'est-à-dire qu'on ne sait pas au préalable si on contacte une station avec un indicatif spécial, une station Corse, on ne sait pas si c'est un indicatif spécial ou un indicatif individuel normal, quoi. Quand on est dans les départements et régions d'outre-mer, donc là encore, faut connaître, je rappelle, départements et régions d'outre-mer, donc c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Mayotte est un département d'outre-mer, mais n'est pas une région d'outre-mer, donc ça ne marche pas. Donc à Mayotte, on va utiliser TX. Hein, donc TO, c'est dans les DROM, donc les départements et régions d'outre-mer, et ne demandez pas pourquoi, à Saint-Pierre et Miquelon, et à Mayotte, pardon. Donc Mayotte, on l'a remis dedans, bien qu'elle ne soit pas région d'outre-mer. C'est département d'outre-mer, mais ça passe par le deuxième, en deuxième ligne. Et Saint-Pierre et Miquelon n'est ni un département ni une région. Alors on l'a quand même ajouté. Et donc pour tous les autres, toutes les autres collectivités territoriales d'outre-mer, on va utiliser TX. Et là, comme TO ou TX, vous ne savez absolument pas où se trouve votre contact. TO, il peut se trouver donc à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte, on ne sait pas où. Et même chose pour les TX, on ne sait pas du tout où il est. C'est un petit peu gênant, c'était un peu le but des préfixes en individualisant, en disant FM c'est Martinique, c'est-à-dire que vous, si vous contactez quelqu'un dont l'indicatif commence par FM, vous êtes certain qu'il est originaire de Martinique. Avec ce système d'indicatif pour l'outre-mer, TO ou TX, vous ne savez absolument pas d'où est cette expédition. Voilà. Et donc, donc la demande donc à envoyer, il y a un imprimé sur le site ANFR, donc il suffit d'aller le chercher, de le télécharger, de le remplir, et donc la demande doit être motivée, c'est-à-dire qu'on explique rapidement pourquoi on demande l'indicatif TM277DA, voilà, bon, après on explique que c'est à l'occasion de la fermeture d'une base, du détachement 277, on explique un peu, on met un peu de, on enrubane tout ça, ça doit être déposé 20 jours ouvrables, donc finalement un mois, avant le début de l'activité. Pourquoi ? C'est que derrière, il faut que l'ANFR instruise le dossier, voir si c'est pas, s'il n'y a pas de problème particulier. Pour ne pas le faire au dernier moment comme il se doit, et donc il faut prévoir un peu son coût à l'avance. Et donc dans le dossier remis à l'ANFR, on indique l'adresse de l'activation, donc précisément là où ça va être, avec les positions GPS, comme pour comme pour votre indicatif personnel, donc il faut donner la position exacte. De ce fait, l'indicatif, on ne le fera pas en portable ou en mobile. Alors déjà pas de mobile, puisqu'il faut nommer une adresse, donc ça ne peut être qu'en portable. Et en fait, c'est pas du portable puisque vous donnez l'adresse. Donc c'est vraiment une station fixe. Donc il faut remettre ce dossier 20 jours avant. Et surtout, alors évidemment les dates, tout à faire, c'est mieux, et la liste des opérateurs. Voilà, donc il y a quand même, c'est un dossier quand même assez complet qu'il faut remettre. Évidemment, il faut joindre la notification de l'indicatif d'appel de celui qui fait la demande, pas de tous les opérateurs, pas de la liste des opérateurs, mais celui qui en fait la demande, et cette demande d'indicatif spécial, elle est maintenant gratuite. Auparavant, c'était 24€ avant 2018. Et évidemment, ces indicatifs spéciaux sont réattribuables. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisé, un autre peut en demander l'utilisation. Voilà. Donc après, c'est en espérant que, parce qu'évidemment, il y a un gros intérêt aussi à n'avoir un indicatif très court. Par exemple, TM1 ou TM0Z. Hein, puisqu'on a eu quelquefois cet indicatif utilisé au Radio Club à Neuilly-sur-Marne. Donc voilà, TM0Z, donc c'est quelque chose qui est facile. Alors, même si on utilise c'est toujours le même truc, du matériel portable, je ne sais pas ce que vous appelez du matériel portable, je rappelle, station transportable, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et donc, dans ce cas-là, on appelle ça portable, mais c'est pas portable au sens téléphone portable. Donc, en fait, elle est fixe parce qu'on donne une adresse. Donc, si vous donnez une adresse, c'est que la station, elle ne va pas bouger. Et donc, si elle ne bouge pas, et qu'en plus, vous avez donné l'adresse à l'NFR, eh ben, vous ne mettez pas de /P. Et en tout cas, surtout pas de mobile. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un indicatif spécial en mobile. Donc, faire le tour de France avec un indicatif spécial, c'est tout simplement pas possible. Ou tout au moins, il faudrait demander à chaque fois un indicatif, à chaque fois que vous changez de place, à chaque étape. Et suivre le tour sur votre vélo, c'est pas possible. Tout au moins avec un indicatif spécial. Alors, le titulaire qui ne souhaite plus utiliser son indicatif d'appel peut demander la suspension volontaire. Donc, alors ça, c'était quelque chose qui était très intéressant quand il y avait la taxe annuelle, parce que ça permettait d'économiser 45€. Bon, vous me direz, 45€, c'est pas grand-chose. Bon, voilà. Au bout de 10 ans, ça fait quand même 450€. On commence un petit peu à regarder. Et donc l'idée, c'était quoi? C'était de suspendre l'indicatif et demander à la NFR de le garder au chaud, entre guillemets, et de ne pas le réattribuer pendant au moins 10 ans. Et si on voulait le réutiliser, eh bien, on redemandait à la NFR de le réutiliser. Et avant 2018, en fait, il fallait repayer les 45€. Maintenant, enfin 46 même d'ailleurs. Maintenant, comme il n'y a plus de taxes radioamateurs, la suspension volontaire, c'est quelque chose qui est. J'en vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc, d'ailleurs, depuis 2018, il y a un certain nombre de gens qui ont demandé, qui avaient fait une suspension volontaire, et qui ont demandé de réactiver leur indicatif, parce qu'il n'y avait plus cette taxe annuelle. Donc il y a dû y avoir quelque chose comme 200 à peu près suspensions volontaires qui ont été levées. Voilà, donc des indicatifs réattribués. quand on en, puisqu'on est dans ce sujet-là, on va parler aussi de l'annuaire des radioamateurs. Et donc cet annuaire comporte le nom, le prénom, l'indicatif et l'adresse de tous les radioamateurs, sauf ceux qui ont demandé à être sur liste orange. Et donc, quand ils sont sur liste orange, ben, on sait que l'indicatif est utilisé, mais on ne sait pas par qui. Si on veut, si les informations sont déjà publiées et qu'on demande pour autant à passer sur liste orange, on peut du coup demander à changer l'indicatif. Voilà. L'ANFR est autorisée à céder les données de cet annuaire aux associations nationales représentatives des radioamateurs. Donc c'est comme ça qu'à partir de ce fichier, de cette base de données, on a ce fameux annuaire des radioamateurs. Alors ça, c'est celui publié par le REF, et il y en a un autre, Radioamateur France, qui est disponible sur son site internet au format PDF. Et l'annuaire comporte aussi les coordonnées des radioclubs et des relais balises. Alors quand on a dit les coordonnées, c'est donc les adresses, mais aussi les indicatifs des responsables. Donc sur cet annuaire ANFR, on peut récupérer toutes ces informations-là. En fait, il y a trois pavés quand vous allez sur le site ANFR, il y a trois pavés. Il y a l'annuaire des radioamateurs, personnes physiques, on dirait, l'annuaire des radioclubs et l'annuaire des relais. Allez, trois petits pavés pour accéder à cet annuaire. Les indicatifs spéciaux temporaires ne sont pas gérés pour le moment dans l'annuaire ANFR. C'est une possibilité, ça devrait changer, puisque ça a été proposé dans la modification de texte, là, et donc ça serait ajouté avec ce ne sont que les indicatifs spéciaux temporaires autorisés à date. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas retrouver un indicatif spécial temporaire utilisé il y a 2 ans. Il aura été supprimé de la base de données. Donc ce sont ceux qui sont utilisés à l'heure actuelle. Parce qu'évidemment, comme le problème, c'est que comme on peut réutiliser, enfin réaffecter un indicatif de spéciaux à d'autres personnes, on risque d'avoir des chevauchements et de ne pas savoir sur quelle période ça porte. Alors, il avait été demandé au début de dire début et fin de chaque indicatif, et l'ANFR a dit que c'était trop compliqué à gérer. Donc voilà, on se retrouve avec uniquement les indicatifs spéciaux. Enfin, on se trouverait, ça pourrait changer, c'est pas encore fait, le texte n'est pas encore publié, donc on est encore sujet à modification. Mais voilà, on pourrait avoir une modification et donc que ces indicatifs spéciaux temporaires apparaissent. Ce qui serait pas mal parce que ça permettrait comme ça de savoir de quoi on parle. Alors, on n'a que l'indicatif, l'adresse et le responsable. C'est tout ce que l'on aura. Utilisation de l'autorisation d'émettre dans les pays de la CEPT. Donc ça, c'est ma fameuse TR6101 qui prévoit donc la libre circulation des radioamateurs au sein de la CEPT. Et donc, pour les radioamateurs étrangers qui viennent en France, comment ça marche? Si le séjour dure moins de 3 mois, pour des raisons touristiques, on va dire, faire simple, le radioamateur étranger va s'identifier avec le préfixe du pays visité, donc F s'il est en France continentale, mais TK s'il est en Corse, FM sinon Martinique, etc., etc. Suivi d'une barre de fraction, que l'on, alors soit on dit barre de fraction ou stroke en anglais, avec mon superbe accent anglais, et puis l'indicatif personnel de ce radioamateur, suivi enfin de slash P ou portable ou slash M ou mobile, pour déterminer si on est portable ou mobile. Exemple, F barre de fraction I9AAA barre de fraction P est une station italienne émettant depuis un hôtel à Paris. Ah, puisque s'il est à l'hôtel, on va dire qu'il est là pour moins de 3 mois. Un radioamateur français émettant depuis son véhicule en Belgique s'identifiera par ON barre de fraction F6ABC slash N. D'accord ? Alors, précisément, si vous êtes en téléphonie, vous allez dire Oscar Novembre barre de fraction Foxtrot 6 Alpha Bravo Charlie mobile. Ça, c'est si vous êtes en morse, vous allez taper ON barre de fraction F6ABC barre de fraction M. Bon, c'est relativement simple. Le problème, c'est que dans le programme de l'examen, on vous demande de connaître tous les préfixes utilisés par les pays de la CEPT. Et là, vous avez donc la liste complète de tous ces pays et de leurs dépendances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a des pays où qui ont, comme la France, un grand nombre de dépendances, et donc du coup, ça fait à chaque fois un préfixe différent. Et malheureusement, il y a beaucoup de questions là-dessus. Et là, j'ai pas vraiment de moyens mnémotechniques pour vous aider. Faire des impasses, peut-être, mais n'en faites pas trop. Voilà, s'il y a déjà, je pense, une partie du tableau des fréquences, on peut faire des impasses. Là, ça tombe assez régulièrement. Et c'est pas les pays les plus connus, évidemment, qui sont utilisés. Donc voilà, je vous ai mis tous ces pays. En gras, ce sont tous les pays membres de l'Union européenne, donc les 27. Et alors là, vous n'avez pas l'intégralité des pays de la CEPT, puisque là, il n'y en a que 45. Il y en a quelques-uns qui finalement n'appliquent pas cette TR6101. Voilà. Et comme dit Wizado, et là, c'est le drame. Eh ben oui. Là, je vais pas pouvoir vous aider. On peut regarder rapidement. Voilà, Albanie, ZEDA. Allemagne BL, Andorre C3, Autriche OE, Belgique ON, Bosnie-Herzégovine E7, Bulgarie LZ, Chypre 5B, Croatie 9A, Danemark OZ. Alors vous remarquez que le Danemark a aussi des dépendances, donc les îles Féroé OY et le Groenland OX. Espagne EA. Alors l'Espagne, elle a aussi donc les Canaries et les Baléares, et donc par contre, l'Espagne a décidé que ces territoires étaient gérés par le chiffre qui suit le préfixe de l'Espagne. Donc vous avez EA8 et EA9 qui sont pour les Baléares et les Canaries. De mémoire. Hein. Pas certain que ce soit, mais ça fonctionne comme ça. Donc après, vous avez Estonie ES, la Finlande OH, la Grèce SB, Hongrie, il y a HA et HG, ne me demandez pas pourquoi, il faut utiliser l'un ou l'autre, Irlande EI, Islande TF, Italie I, ça fait partie des pays d'Italie qui ont eu droit qu'à une seule lettre. La Lettonie, YL, le Liechtenstein, HB. Alors vous remarquez que vous avez le Liechtenstein, HB, et la Suisse, HB9. C'est-à-dire que le Liechtenstein n'est pas à proprement parler un pays. C'est rattaché à la Suisse. Alors évidemment, il y a des questions dans l'examen sur ces préfixes, et dans l'examen, il n'y a que ceux qui sont sortis. Donc on peut aussi se baser là-dessus. Mais sachez que si la NFR met à jour sa base de données, il y a d'autres pays qui risquent de tomber. Nous en étions au Liechtenstein, la Lituanie, LY, le Luxembourg, LX. Ça, c'est facile, ça. Luxembourg, LX. Macédoine, Z3, Malte, 9H, Moldavie, ER, Monaco, 3A, Monténégro, 4O. Oui, c'est pas 40, hein, c'est 4O. On ne peut pas avoir deux chiffres. C'est soit deux lettres, soit une lettre, un chiffre, soit un chiffre, une lettre. Et puis effectivement, on peut faire aussi des séries dans l'examen avec, en cochant les indicatifs des, en choisissant les préfixes. Norvège est là. La Norvège a aussi le Spitsberg, qui est bien différent. Et donc là, le Spitsberg, c'est JW. Ne cherchez pas à comprendre. Pays-Bas, PA. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, les Pays-Bas ont aussi quelques des territoires d'outre-mer dans les Antilles. Notamment la partie... Saint-Martin, dont on parlait tout à l'heure, mais Saint-Martin et ses autres, Curaçao et je ne sais plus quel, Bonaire aussi, tous ces territoires d'outre-mer, finalement, ne sont pas rattachés à la TR-6101 comme nous on l'a fait pour tous nos territoires d'outre-mer français. Donc, voilà. Donc on ne peut pas aller dans ces territoires-là, en disant j'utilise la recommandation TR-6101. Voilà. Donc on ne peut aller qu'aux Pays-Bas et pas dans les territoires d'outre-mer des Pays-Bas. Pologne, SP, Portugal, c'était 7, Açores, c'était 8, et Madère, c'était 9. Donc vous voyez que c'est CT, mais selon le chiffre derrière, eh bien, vous allez définir, ça va marcher comme l'Espagne. Sauf que pour l'Espagne, on n'en parle pas dans la TR-6101. Pour le Portugal, on en parle. Roumanie, YO. L'Angleterre. Alors là, l'Angleterre. Alors, petit rappel, premièrement, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne en janvier 2020, et donc ne fait plus partie de l'Union européenne. Et le Royaume-Uni, comme son nom l'indique, ce sont plusieurs royaumes. Donc quand on parle de Royaume-Uni, on va parler des cinq royaumes. Les cinq royaumes, c'est Angleterre, Île-de-Man, Irlande, Écosse et Pays de Galles. D'accord ? Ça, ce sont les cinq royaumes. La Grande-Bretagne, c'est l'île. Et donc l'île, c'est donc Écosse, Pays de Galles, Angleterre. Ok ? L'Irlande et l'Île-de-Man, ce sont des îles séparées. Voilà, donc Nicolas, qui a passé l'examen mercredi, a eu droit au Portugal, donc c'était FM, donc la Martinique, et une question sur la durée de l'utilisation de l'indicatif spécial, donc ça doit être 6 mois ou 15 jours, je ne sais pas, un des deux, enfin 15 jours consécutifs sur une période de 6 mois. En plus, le Royaume-Uni, vous avez des petites îles, comme Jersey et Guernsey, qui sont... ils font partie du Royaume-Uni sans être des royaumes. Voilà. Donc tous ces indicatifs-là, il faut les connaître. Ensuite, on a la Fédération de Russie, R. Alors vous remarquez que le R, la Russie, a eu le droit d'utiliser qu'une seule lettre. Elle fait partie des fondateurs de l'UIT. Saint-Martin, T7, la Serbie, YQ, la Slovaquie, OM, la Slovénie, S5, la République tchèque, OK, la Suède, SM, la Suisse, HB9, on vient d'en parler avec le Liechtenstein, la Turquie, TA, l'Ukraine, UT, la Cité du Vatican, HV. Alors, pour votre information aussi, la question récurrente, c'est que pour le Royaume-Uni, alors, premièrement, les questions d'examen portent sur les préfixes, mais dans l'optique non pas l'utilisation dans le cadre de la TR6101 comme je vous l'ai indiqué ici, mais savoir de quel pays est un indicatif. Et donc le Royaume-Uni utilise la lettre M, mais aussi la lettre G. Donc si vous contactez quelqu'un dont l'indicatif commence par exemple par GW, eh bien c'est la même chose que le MW. Donc le GW, ça sera le pays de Galles. La Russie, de même, la Russie, elle a donné des indicatifs avec R, mais elle l'a donné aussi avec UA. Et donc, les questions d'examen vont porter aussi sur les indicatifs, et pas spécialement ceux de la TR6101, mais les indicatifs classiques. Et enfin, un truc un peu particulier, on a les organisations internationales ont droit à des séries particulières, et donc l'ONU, et par conséquent aussi l'UIT qui est une de ses filiales, a droit à un préfixe. Ce préfixe, c'est 4U. C'est l'ONU et toutes ses branches ont droit à un préfixe particulier, et ce préfixe, c'est 4U. D'ailleurs, au passage, c'est un jeu de mots, parce que 4U, c'est for you en anglais, et for you, c'est pour vous. Donc, ce sont des organismes qui travaillent pour vous. Alors, la question de Nicolas. Une question HB9 émet en portable, comme HB0, quel est son QTH? Ouais, c'est encore une histoire d'un indicatif pour savoir d'où il émet, si c'est du Liechtenstein ou de Suisse, selon qu'on a mis le préfixe avant ou après. Bon. Je pense qu'on doit l'avoir à la suite dans les questions posées à l'examen. Donc en plus de ces 45 pays, il y a 3 pays qui n'ont pas donné de signe de vie sur la recommandation TR6101. Ces pays, c'est l'Azerbaïdjan, 4K, la Biélorussie, EW, et la Géorgie, 4L. Et puis enfin, on a quand même un petit pays qui, on ne sait pas trop ce que c'est le Kosovo, qui pose à chaque fois problème. Kosovo, je rappelle, c'est une partie de la Serbie qui a fait sécession, il y a de ça bientôt, je crois que c'était 2013, quelque chose comme ça. Elle n'est pas reconnue par la CEPT, c'est pas reconnu par la CEPT, mais voilà, l'UIT ne lui a pas donné officiellement un préfixe, mais les quelques stations radioamateurs qui ont opéré depuis le Kosovo ont utilisé l'indicatif Z6. Évidemment, comme ce n'est pas reconnu par la communauté internationale, notamment l'ONU, eh bien, ça ne peut pas être membre de la CEPT. Donc c'est encore un truc très particulier, un pays qui n'en est pas un. Voilà. Enfin, plus exactement, c'est une province qui a fait sécession et qui, voilà. Du coup, on ne sait pas trop et c'est un peu un no man's land, ce truc-là. Et c'est en Europe. Et enfin, on a des pays qui ne sont pas membres de la CEPT, mais qui appliquent quand même la TR6101. Et donc, si vous allez en Australie, vous allez pouvoir utiliser votre indicatif français, pour des séjours de moins de 3 mois, évidemment, et vous allez utiliser VK, barre de fraction, PsyGPX, barre de fraction mobile ou portable. Donc vous avez l'Australie comme ça, VK, l'Afrique du Sud, ZS, les Antilles néerlandaises, elles reviennent par ce biais-là, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la CEPT, mais elles ont quand même signé cette recommandation. Et donc vous pouvez aller dans ces pays-là, dans les Antilles néerlandaises, je rappelle, hein, Curaçao, Bonaire, Saint-Martin, et il y en a encore une quatrième dont j'ai oublié, et qui, donc, vous pouvez utiliser votre indicatif dans ces Antilles néerlandaises. Le Canada aussi, avec une particularité, puisqu'on a deux territoires, je ne sais pas pourquoi ils ont des indicatifs spéciaux, Terre-Neuve et Labrador, c'est VO, et Yukon et l'île du Prince-Édouard, c'est VY. Les États-Unis, avec là toute une flopée de localisations, donc, puisqu'on a W, KH ou KP suivi d'un chiffre selon la localisation. Alors, il faut regarder sur une carte des indicatifs américains et vous allez avoir la manière dont c'est. Parce que quand on parle des États-Unis, c'est les États-Unis, mais aussi toutes les dépendances outre-mer. Et notamment dans le Pacifique, ou Porto Rico, ou des choses comme ça. Et donc là, il y en a quand même pas mal. Israël, 4X, le Pérou, OA, Nouvelle-Zélande, ZL, et Hong Kong, VR2. Alors, Hong Kong, cas particulier, il applique la TR6102 pour la seule reconnaissance du niveau de l'opérateur. C'est-à-dire que quand vous allez à Hong Kong, il faut demander, ils reconnaissent votre niveau, mais par contre, vous ne pouvez pas utiliser votre indicatif là-bas. Il faut que vous leur demandiez un indicatif VR2, comme pour nous, pour des séjours de plus de 3 mois. Voilà, donc c'est le cas particulier. Mais... Et enfin, on a aussi des accords d'État à État, donc des conventions, qui ont été signées entre la France et le Brésil, TY, et la Côte d'Ivoire, TU, et le Japon, JA, et le Kenya, 5Y, et la Thaïlande, HS. Il faut savoir que la plupart du temps, on avait des tas d'accords de réciprocité comme ça avec plein d'autres pays, et au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la TR6101, en fait, ils sortent de cette liste-là pour remonter dans les pays membres ou pas de la CEPT qui appliquent la recommandation TR6101. Voilà, donc j'ai pas vu beaucoup de questions sur cette partie-là. En revanche, sur cette partie-là, on y a droit, je dirais, quasiment à tous les coups. Évidemment, toutes ces listes sont à connaître par cœur. Il y a beaucoup d'examens. Et alors, là, petit rappel quand même, la TR6101, donc celle qui permet cette libre circulation des radioamateurs, elle n'est valable que pour des séjours de moins de 3 mois, que ce soit en France ou ailleurs. C'est valable pour des courts séjours, moins de 3 mois. Donc elle est valable aux radioamateurs étrangers qui viennent en France, et donc ils peuvent utiliser leur indicatif de cette manière-là, c'est-à-dire en utilisant F, barre de fraction, leur indicatif, slash P ou slash M, donc c'est portable ou mobile, et aux radioamateurs français qui se déplacent pendant au moins 3 mois dans un pays de la CEPT qui applique ces conventions. Ces recommandations. Et n'oubliez jamais que lors de vos déplacements, c'est la réglementation locale qui s'applique, donc les bandes de fréquence, les classes d'émission, la puissance, etc., etc., et non pas votre propre réglementation. Même chose quand il y a des étrangers qui viennent en France, évidemment c'est la réglementation française qui va s'appliquer, et alors là, on commence à rigoler parce que quand on cherche la réglementation française, eh ben pour les étrangers, on a un peu de mal à la trouver. Alors, J'imagine que, à l'inverse, si vous allez à l'étranger, vous allez peut-être avoir un peu de mal à trouver des informations sur ne serait-ce que les bandes de fréquence et les classes d'émission et les puissances autorisées. Voilà. Donc après, il faut chercher, partir à la chasse aux informations un peu partout sur les sites internet, et c'est pas évident. Et si on fait comme la France, qui ne publie pas vraiment grand chose, ou tout au moins quand c'est publié, c'est en français. Et donc voilà, si c'est des étrangers qui viennent, ils sont peut-être pas non plus à l'aise avec le français, et encore moins à trouver dans les fouillis des sites internet. Voilà. Et donc, si le séjour dure plus de 3 mois, eh bien, les radioamateurs étrangers visitant la France doivent demander un indicatif définitif, donc soit de la série V ou de la série W, comme on a vu tout à l'heure. Et pour autant, ils n'ont pas à repasser l'examen français. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que dans beaucoup de pays, et je dirais même dans la quasi-totalité des pays, on n'a pas cette opportunité et on est obligé de repasser un examen local. Donc, voilà, et donc, peut-être pas spécialement dans la langue que vous maîtrisez. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui seraient tentés par l'expatriation, par exemple. Voilà, il faut... C'est pas aussi facile que ça de partir et de se dire qu'on va utiliser notre station quand on va partir de France. Voilà. Alors, en ce qui concerne les novices, donc les F0, il y a des textes qui parle d'une licence de vice, donc c'est la recommandation ECC 0506, mais cette recommandation, elle n'est pas appliquée en France, ni pour les ex-classe 3, donc ceux qui ont un indicatif F0, qui ne peuvent pas utiliser leur station à l'étranger, ni pour les novices étrangers qui viennent en France. On n'applique que les textes que pour les licences dites AREC, et pas pour les licences de vice. Enfin, il existe un petit texte, une recommandation de licence d'entrée, qui ne permet pas de trafiquer à l'étranger. Il n'y a aucun texte de reconnaissance de niveau d'utilisation d'indicatifs. Pour de moins de 3 mois comme ECC 0506 ou TR 6101. Voilà, et ben on arrive aux questions posées à l'examen. Alors, déjà sur l'examen en lui-même, temps prévu pour un handicapé de plus de 70%. Donc 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps, temps identique aux autres candidats, 3 fois plus de temps uniquement pour les profs de réglementation. Évidemment, c'est 3 fois plus de temps partout. Quel est l'âge limite pour le passage de l'examen? Pas d'âge minimum, 12 ans, 16 ans, 18 ans, il n'y a pas d'âge minimum. Après combien de temps peut-on se représenter après un échec à l'examen? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an? Eh bien, c'est 2 mois. Voilà, donc pas de problème particulier, on a déjà vu ça. Ça peut dérouter au début, parce que pourquoi on parle des conditions d'examen, un examen. Enfin, voilà. Là, les réponses. Vous contactez un radioamateur dont l'indicatif commence par FG. D'où est-il originaire? Alors, FG, donc c'est Guyane. parce qu'évidemment, on va vous mettre des tas de jets, donc, pas Mayotte évidemment, mais la Guadeloupe et les îles Glorieuses, ah, c'est pas bon. Dans quelle région de l'unité se situent les îles Crozet? Ah ah! Région 1, région 2, région 3 et région 4. Alors déjà, région 4, vous pouvez supprimer, elle n'existe pas. Donc voilà. Alors je rappelle, l'île Crozet, c'est. Enfin, les îles Crozet sont entre le Cap de Bonne-Espérance et l'Antarctique. Donc le prolongement de l'Afrique. Et donc là, c'est la région 1. Il faut avoir une idée de quoi on parle. Qui délivre les indicatifs d'appel sur l'île de Mayotte? Alors ça, c'est une très bonne question. Avant 2014, c'était le préfet. Depuis 2014, enfin, depuis fin 2014 et depuis le coup de 2015, c'est la NFR qui peut donc délivrer des indicatifs d'appel sur tous les territoires français. Auparavant, c'est que le ministre chargé des communications électroniques n'avait aucun pouvoir à Mayotte. Et donc, il était obligé de passer par le préfet. Ça fait partie, ça, des particularités de tous nos territoires d'outre-mer. Voilà. Alors donc, ma question, c'est souvent celle-là. Est-ce que, parce que comme c'est une question assez ancienne, est-ce que la question a été retirée ou, enfin pour l'île de Mayotte, est-ce qu'elle a été retirée ou est-ce qu'elle a été modifiée? Voilà, c'est toujours la même question. Voilà, et FG, c'est bien la Guadeloupe et non pas la Guyane. Guyane FY, Mayotte FH et les îles Glorieuses, c'est rattaché aux terres australes et antarctiques françaises. Donc ça serait plutôt FT. Signification de F8VXY. Est-ce un radioamateur originaire d'un pays de l'Union européenne en visite en France pour plus de 3 mois? Un radioamateur originaire d'un pays hors de l'Union européenne en visite en France pour plus de 3 mois. Une station de radioclub militaire. Un radioamateur ayant un certificat de classe, un certificat d'opérateur de classe 3. Classe 3, ça voudrait dire qu'il y a ici un 0. C'est pas le cas. Radio Club, ça voudrait dire qu'il y a un K ici en première lettre de suffixe. C'est pas le cas. Donc après, il y a soit originaire d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays hors de l'Union européenne. V, c'est dans l'Union. W, c'est hors de l'Union. Voilà. Donc c'est la première lettre. Durée d'utilisation d'un indicatif d'appel, d'un indicatif spécial, pardon, 2 jours, 15 jours, 15 jours non consécutifs pendant 6 mois, 1 an. Donc le 15 jours consécutif, on peut le faire, oui, mais la règle, c'est 15 jours non consécutifs pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'on peut définir, puisque vous avez 15 cases à remplir avec les dates, vous pouvez mettre 15 jours consécutifs si ça vous fait plaisir. Mais le texte vous dit, vous avez 15 jours à définir, ils peuvent être non consécutifs ou pas, mais s'ils sont non consécutifs, c'est pendant 6 mois et uniquement 6 mois. Voilà. Et si vous voulez le faire fonctionner pendant 2 jours, pas de problème, mais c'est pas la question. Voilà. Donc ces 3 possibilités-là sont possibles. Mais la bonne réponse est 15 jours non consécutifs pendant 6 mois. Et pas un an. Et ça, c'est la question, la première fois que j'ai vu ça, je me dis, mais de quoi on parle? Quel préfixe est à la fois temporaire et fixe? Évidemment, c'est le TK, la Corse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que TK est utilisé pour les stations, les indicatifs spéciaux temporaires. Des indicatifs spéciaux qui sont par définition temporaires puisqu'ils ne durent que 15 jours non consécutifs pendant 6 mois, mais c'est aussi pour les indicatifs individuels corse. Et donc le seul qui est dans ce cas-là, qui est à la fois temporaire et fixe, eh bien c'est le TK. Alors c'est une question qui est un peu tordue, mais une fois qu'on l'a bien expliquée, ça va mieux. Oui, et puis là, il y a des demandes. Alors, est-ce que ça va être retenu ou pas? J'ai vu passer des demandes d'associations que l'indicatif spécial se souhaite plus pendant 6 mois, mais pendant un an. Voilà. Alors, est-ce que ça va être retenu dans le texte définitif qui sera publié on ne sait quand? Je ne sais pas. Alors, pour l'amateur français, on visite dans un pays étranger adhérent à la CEPT. La licence dite CEPT permet sans formalité l'usage de son indicatif d'appel précédé du préfixe du pays et suivi de P ou de M. L'exploitation d'une station portable pendant 6 mois maximum. L'exploitation d'une station portable pendant 3 mois maximum. L'usage de son indicatif sans modification. Ça ne peut être que la première, donc c'est l'indicatif précédé du préfixe du pays, visité, on aura pu rajouter ça, et suivi de P ou de M selon qu'on est portable ou mobile. Donc c'est la première. L'indicatif de l'île de Man, est-ce que c'est DG, est-ce que c'est GD, est-ce que c'est GM, est-ce que c'est GJ? Là, j'avoue, je passe. Je ne les ai pas appris par cœur, moi non plus. Quel est l'organisme qui utilise le préfixe 4U? Et alors ça c'est une filiale, entre guillemets, de... Enfin, c'est l'ONU ou une filiale de l'ONU. Alors, pour rappel, l'ONU, ce n'est pas... Enfin, l'Union européenne n'est pas une filiale de l'ONU. L'OTAN, encore moins, puisque... Et l'OCDE, c'est pas... non plus une filiale de l'ONU. En revanche, on aurait pu, par exemple, mettre l'UIT ou l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, mais en tout cas, ni OCDE, ni OTAN, ni Union européenne d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc ça ne peut être que l'ONU ou une de ses filiales. On peut aussi l'utiliser pour l'organisation de l'avion civil. Alors, je ne sais même plus comment c'est. Je sais même plus comment c'est. C'est l'OIAC, quelque chose comme ça, enfin, qui détermine les règles de vol des avions. C'est eux qui déterminent comment faire enfin, présenter les consignes de sécurité, etc. dans les avions. Et donc l'île de Man, c'était GD. Voilà. Mais on peut aussi utiliser MD, puisque les Anglais, ils ont beaucoup d'indicatifs, et donc en fait, ils utilisent alternativement soit en première lettre le G, soit en première lettre le M. Quelques questions tordues. Ça, c'est une question tordue qui a été, enfin, qui sont sorties assez récemment. Donc, que signifie l'indicatif O barre de fraction N-Z Z-F? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que, première chose, déjà, dans un indicatif radioamateur, il y a besoin absolument d'un chiffre. Là, il n'y a pas de chiffre. Deuxièmement, les caractères autorisés, c'est les 26 lettres de l'alphabet romain et les 10 chiffres. Là, le tiret n'est pas un caractère autorisé. Donc cet indicatif n'existe pas. Que signifie l'indicatif FON1USA? Un opérateur américain émettant depuis la France, un opérateur membre d'un État membre de la CEE pour un court séjour, un opérateur français émettant depuis la Belgique, un opérateur américain émettant depuis la Belgique. Alors, l'opérateur, alors déjà, F, c'est France, donc il émet depuis la France. Et ON, ça, c'est la Belgique, qui est membre de la... de l'Union européenne, la CEE. CE, c'est un ancien nom qui veut dire Union européenne. Alors, est-ce que c'est un Français émettant depuis la Belgique? Non, puisque ça, c'est un Belge qui émet depuis la France. Donc, on cherche là-dedans un Belge qui émet depuis la France, il n'y a pas marqué. Donc, en revanche, on a ça. Opérateur membre d'un État de la CEE, donc la Belgique fait partie de l'Union européenne, pour un court séjour. Donc la bonne réponse, c'est celle-là où on ne parle dedans ni de France ni de Belgique. Voilà, donc c'est quand même un truc assez particulier et assez tordu. Enfin, une question, lors de l'activation d'un moulin, le suffixe P est utilisé quand on utilise un indicatif spécial temporaire, on utilise son propre indicatif d'appel, on est propriétaire du moulin, l'activation a été acceptée par l'ANFR. Alors, activation d'un moulin, donc c'est une... comment dire... on veut utiliser un moulin pour exceptionnellement faire des contacts depuis ce moulin. Et donc le suffixe P peut être utilisé, mais ça ne peut pas être une station spéciale temporaire, puisque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle ne peut pas être portable puisque vous avez donné votre adresse. Donc ça ne peut pas être celle-là. On est propriétaire du moulin, si on est propriétaire du moulin, c'est que vous êtes en station fixe, et donc, sauf si votre moulin c'est votre résidence secondaire, mais bon, voilà, je pense que c'était pas l'idée ici de la personne qui a créé la question, et l'activation a été acceptée par l'ANFR, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc la seule solution, ça serait, on utilise son propre indicatif, personnel, pour utiliser sa station depuis un moulin, et généralement ça nécessite, c'est ce qu'on appelle des activations, donc il y a comme ça des moulins, des châteaux, des fontaines, des phares, il y a des tas de choses que l'on peut activer par radio pour faire un peu de promotion de notre vie auprès des gens qui seraient de passage. Voilà. Ce que c'est que activer un moulin, et la première fois qu'on voit ça, on se dit, mais de quoi on parle? Donc voilà les réponses. On a terminé pour ce soir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Alors avec le confinement, au début, je pensais... j'avais prévu des vacances, mais elles sont un peu tombées à l'eau, là. Donc, je pense qu'on va faire des cours tous les vendredis soirs, maintenant jusqu'à la fin du confinement. Voilà. Sur ce, bon week-end à tous, bon week-end confiné. Et puis, à la semaine prochaine, et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Voilà. Bon week-end à tous encore une fois, et à la semaine prochaine. Bye bye.